Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 183e numéro de nos chemins d'histoire, le 24e de la 5e saison, et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Romain Bertrand. Bonjour à vous.
Bonjour.
Romain Bertrand, vous êtes directeur de recherche auprès du Centre de recherche internationale de Sciences Po, et vous faites paraître aux éditions du Seuil, dans la collection L'Univers historique, un volume intitulé « Les grandes déconvenues, la Renaissance, Sumatra, les frères Parmentier ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur une enquête foisonnante qui s'intéresse d'un même mouvement au monde des marins normands et à celui des négociants malais, à la cour de François Ier et à celle du sultan de Ticou, à la poésie mariale du Puy de Rouen et à celle des maîtres de mystiques musulmans. Ce faisant, nous réfléchissons moins à la geste des grandes découvertes qu'à nos grandes déconvenues et pensons la modernité au pluriel et la Renaissance au conditionnel, pour reprendre une formule de l'auteur. Alors partons peut-être pour commencer cette émission, Romain Bertrand, du 19e siècle. Finalement, c'est peut-être le point de départ, ou l'un des points de départ de votre réflexion, singulièrement ces années 1830. C'est alors que un récit alors oublié refait surface, celui de la navigation des frères Parmentier, Jean et Raoul, des frères Diepois de la ville de Dieppe, en Normandie, de leur expédition à Sumatra en 1529, expédition dont l'armateur est Jean Angot. C'est un texte édité en 1832 par Louis Estancelin qui replace ce récit oublié dans la lumière, mais aussi à la mesure de la pensée du 19e siècle qui va l'interpréter d'une certaine manière.
D'une certaine façon, les grandes découvertes, c'est la grande affaire du 19e siècle. Et c'est d'ailleurs dans les années 1830 qu'émerge, que se forge la notion même de grande découverte. Alors elle est déjà un peu présente dans les écrits de Humboldt, dans ses récits des Amériques. Il va la formaliser plus encore dans les années 1850 et 1860. Mais cette idée de réunir sous un même chrononyme tout un ensemble d'expéditions maritimes, évidemment soigneusement choisies pour attester les succès, eh bien c'est une affaire des années 1830. Et ça n'est pas complètement un hasard si Louis Estancelin, qui est par ailleurs un député orléaniste, qui est même l'un des gestionnaires des biens de la maison d'Orléans, donc qui est un monarchiste convaincu, qui soutient donc les entreprises de la monarchie de Juillet en Algérie, eh bien ça n'est pas un hasard s'il décide de publier ce texte, ce récit de voyage de 1529 en 1832, puisqu'on est alors au cœur d'une controverse européenne concernant, on pourrait dire, la priorité des grandes découvertes. Donc, qui sont les premiers ? Les premiers à avoir rallié les côtes de Guinée, le Brésil, l'océan Indien, les sociétés d'Asie du Sud et du Sud-Est. Et un très grand archiviste, conservateur et diplomate portugais, le vicomte de Santarém, exaspéré par la prétention d'autres nations européennes à remettre en cause ce qu'il considère, d'ailleurs à juste titre, ou en tout cas à assez bon droit, être la réalité de la primo-découverte par les Portugais des routes de navigation vers l'Asie, eh bien, dans un opuscule, s'offusque de ce qu'on puisse essayer de changer cette réalité-là. Donc on est au cœur, dans les années 1830, d'un débat, et il se trouve que la France, en particulier la monarchie de Juillet, a besoin de faire valoir sa voix dans ce concert des nations européennes qui, les unes après les autres, se prévalent de grandes découvertes. Et donc on voit que, évidemment, la réédition, l'édition pour la première fois du manuscrit du voyage des frères Parmentier tombe vraiment à point nommé.
Cette édition se fait à partir d'un manuscrit du XVIe siècle, contemporain de l'auteur, Pierre Crignon, qui est, si j'ai bien compris, l'astrologue, hein, comme on disait à l'époque, de l'un des deux navires de l'expédition. C'est ce manuscrit qui a servi de base à l'édition de 1832, qui se trouve aujourd'hui à la médiathèque Jean Renoir de Dieppe, et vous en préparez avec Guillaume Lelièvre une réédition pour le compte des éditions Chandaigne.
Oui, tout à fait. Il y a le manuscrit de Dieppe, qui est du XVIe siècle, qui n'est pas de la main de Pierre Crignon, mais d'évidence, en tout cas, rapporte un propos qu'il est le seul à pouvoir avoir tenu. Et puis, il y a un deuxième manuscrit qui, lui, est inséré dans un volume de texte du début du XVIIIe siècle et qui, lui, est conservé à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Et le problème des éditions successives du récit du voyage des frères Parmentier à Sumatra au XIXe siècle, donc l'édition Estancelin de 1832, et puis l'édition de Charles Schaeffer, grand orientaliste, en 1883, et enfin celle de Pierre Margris, dans les mêmes années, eh bien c'est que la part ou la ligne de départ entre les deux manuscrits n'est pas toujours clairement faite. Schaeffer, par exemple, donc l'auteur de l'édition de 1883, n'explicite pas les interpolations du manuscrit du XVIIIe avec celui du XVIe siècle. Et il se trouve que, par ailleurs, c'est le manuscrit de Schaeffer qui, jusqu'à aujourd'hui, a fait l'objet de rééditions successives dont se sont emparés des romanciers, des metteurs en scène, le cas échéant. Donc en fait, l'idée d'une édition critique du manuscrit de Dieppe, eh bien, c'est de refixer très clairement d'abord la transcription du texte, parce que les travaux du XIXe siècle sont d'une très grande qualité de transcription, mais il reste quand même quelques erreurs, et en tout cas des transcriptions qui restent sujettes à caution, pour offrir tout simplement une comparaison des deux versions. Donc signaler très clairement ce qui relève des interpolations du manuscrit du XVIIIe siècle dans les éditions précédentes, en profiter aussi tout simplement pour refaire l'histoire de ce manuscrit, cette étrange découverte donc par Estancelin en 1832 chez un libraire imprimeur de ses accointances de ce manuscrit, et refaire précisément ce que nous avons fait très rapidement, c'est-à-dire une histoire, on pourrait dire, politique de son édition au XIXe siècle, c'est-à-dire resituer ce projet-là dans ce qu'ont été les débats du XIXe siècle à propos des grandes découvertes qui s'inventent comme notion générale, et puis de la réappropriation nationale, voire nationaliste, de ces grandes découvertes.
Vous le dites à un moment, le texte de Pierre Crignon sur cette expédition de 1529 constitue un fil rouge, vous le dites dans votre ouvrage, dans l'avant-propos, mais évidemment, ce livre est le nom de quelque chose de plus vaste. C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué avec le monde. L'expédition des frères Parmentier se solde par des morts, dont ceux des deux chefs de l'expédition, Jean et Raoul Parmentier, et un peu de poivre, ça paraît mince, mais c'est pas seulement ça non plus, votre livre, c'est plus large que ça. Si on avait à dire les choses en quelques mots, de quoi votre livre est-il le nom, Romain Bertrand?
Évidemment, cette idée d'une rencontre manquée avec le monde, qui fait écho à des diagnostics historiographiques extrêmement sévères portés sur l'absence de la France dans la course aux découvertes au XVe et XVIe siècle. C'est à prendre en considération, mais rendez-vous manqué avec le monde, et en même temps, eh bien, ces années 1520-1530 font signe, à travers aussi bien la pratique littéraire de Jean Parmentier que les savoirs pratiques, les savoirs sensibles des marins embarqués à bord de ces nefs, vers des façons de penser, des manières de comprendre le monde et de s'y relier, qui sont en fait très très différentes de ce que l'on nous a appris à considérer comme la modernité. D'où cette redoutable ambiguïté dans la manière dont nous désignons cette période, puisque, un peu par réimportation de sa formulation anglaise, on parle souvent pour cette période, lorsqu'on essaye d'échapper, évidemment, au terme envahissant de Renaissance, de première modernité. Et il se trouve que cette première modernité est à bien des égards très différente de la seconde modernité, sachant que celle-ci, donc à partir du XVIIe siècle, est celle qui prend en charge la définition même de ce que c'est que d'être moderne. Eh bien, tout ce que le XVIIe siècle considère comme constitutif de la condition moderne, on peine à le retrouver au début du XVIe siècle. Il y a là des choses, des façons de penser et de faire, eh bien, qui ne cadrent pas avec cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces façons particulières de penser et de faire, hein, des simples marins, des artisans, peut-être aussi bien d'ailleurs des hommes de peine, des paysans, sont à l'époque extrêmement proches de celles de leurs homologues d'Asie du Sud-Est. Donc c'est un rendez-vous manqué avec le monde au regard de l'histoire longue de ces grandes découvertes et des débats auxquels elles ont donné lieu, mais c'est aussi peut-être dans le texte même de Crignon, ici et là, des indices d'une compréhension par les marins normands, donc par les Européens, de particularités de ces sociétés d'Asie au nom d'un même rapport au monde, dont on ne sait plus très bien du coup s'il faut le définir comme tardo-médiéval, comme propre à une première modernité que la seconde aurait chassée ou mise sur le tapis. Et tout ça crée en fait un moment de grande étrangeté. Voilà, ces années 1490-1530 sont en fait un moment extrêmement intrigant et finalement assez mal connu dans notre historiographie. En tout cas, l'idée que nous nous faisons du XVIe siècle, c'est souvent une idée du second XVIe siècle, de la seconde moitié du XVIe siècle, marquée par les guerres de religion, etc. Mais ces premières décennies du XVIe siècle, sont relativement moins bien documentées. Je ne veux pas dire qu'elles n'ont pas donné lieu à maints travaux, et parce qu'on est toujours un peu embarrassé par ce qu'on y trouve.
C'est intéressant aussi quand on regarde votre titre. Finalement, votre titre surgit de l'écriture même de votre livre. Il apparaît à un moment, les grandes déconvenues, mais il faut bien articuler le titre et le sous-titre. La Renaissance, Sumatra, les frères Parmentier. C'est cet ensemble-là qui dit votre projet, Romain Bertrand.
Tout à fait, parce que les grandes déconvenues, c'est un titre issu d'une formule de plume qui circonscrit la dimension critique du projet. Il s'agit bien de revenir sur la façon dont le XIXe siècle en particulier a bâti un certain nombre de légendes. Il s'agit d'aller y voir de plus près et donc d'une certaine façon de déconstruire. Mais ce que dit le sous-titre, c'est que cette opération de déconstruction, cette façon, on pourrait dire, de tailler plus serré, pour voir ce que la légende a un peu trop embelli, n'aurait absolument aucun sens si elle ne s'accompagnait pas d'une dimension positive, c'est-à-dire d'une contribution positive à l'histoire, aussi bien des personnages européens du récit que des sociétés extra-européennes qui sont impliquées par cette mise en récit. Autrement dit, oui, il s'agit toujours d'aller chercher noise ou querelle au mythe ou à la légende, mais pas pour rien. Certainement pas, en tout cas, pour laisser une espèce de champ de ruines, mais au contraire, pour apporter à nos connaissances, pour peupler un peu plus nos récits, le cas échéant d'ailleurs, pour corriger, à partir de l'archive elle-même, un certain nombre d'idées reçues. En tout cas, je suis content que le lecteur, c'est toujours un de mes objectifs, à la sortie, se dise peut-être qu'effectivement, Jean Angot, les frères Parmentier, il faut rester un peu plus modeste par rapport à tout ça, mais ait aussi appris quelque chose, à la fois par exemple sur ce monde étrange de la France des années 1520-1530, mais aussi sur Sumatra, mais aussi sur l'océan Indien.
Alors, ce qui est passionnant aussi pour comprendre un peu le propos général du livre, c'est de regarder sa structure. Il y a un avant-propos en italique, et il y a trois parties qui ne sont pas nommées. Je crois avoir compris que c'était un débat avec vos éditeurs, Patrick Boucheron, Paulin Ismar. Vous les annoncez tout de même, et on comprend que la première partie, c'est plutôt la Renaissance, la Normandie, Dieppe, Jean Angot. La deuxième partie est quand même très centrée autour du personnage de Jean Parmentier et de ses activités aussi littéraires. La troisième partie, c'est l'expédition Sumatra, les mondes lointains, etc. Vous auriez pu très bien les nommer, mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi, Romain Bertrand ?
D'une certaine manière, tout simplement parce que ça ne s'est pas fait dans le temps même de l'écriture. C'est très bizarre, c'est très différent d'un ouvrage à l'autre. Et puis celui-là, d'une certaine façon, c'est écrit comme ça. C'est-à-dire simplement trois parties qui sont trois blocs, quand même, on pourrait dire chapitrés. Mais d'une certaine façon, j'ai pas de meilleure réponse que de dire que ça ne s'est pas fait. Et quand ça ne se fait pas dans le temps même de l'écriture, essayer de le faire après coup charrie le risque de le faire de manière très artificielle. C'est la raison de l'avant-propos, qui tenait quand même à expliquer au lecteur dans quoi on allait l'embarquer. Alors, qui est en italique pour une raison simple, c'est que le texte débute par une narration de plein pied. On est en Normandie en 1450. Les choses commencent là. Quand bien même, par ailleurs, on va discuter historiographiquement ce que c'est que la vision de la Normandie à cette époque, mais c'est un texte dans lequel on rentre de plein pied. Mettre l'avant-propos en italique, c'est une manière de l'affadir ou de l'affaiblir un petit peu pour ne pas gâcher l'impression, tout simplement, de pouvoir pousser la porte d'un coup. C'est un marchepied, mais le plus discret possible.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous terminez par une espèce de note sur le texte dont on a parlé, le texte de Pierre Crignon, enfin voilà. Mais il n'y a pas de conclusion non plus.
Alors, il n'y a pas de conclusion sous la forme, on pourrait dire, d'une reprise. Hein. Bon, il y a une petite conclusion
Absolument.
De type historiographique, puisque justement, je reviens sur les jugements extrêmement sévères portés en particulier par l'École des Annales sur l'échec, la double faillite coloniale de la France au XVe et au XVIe siècle. Mais j'y reviens rapidement, puisque d'une certaine manière, les aspects historiographiques sont déjà discutés. Donc c'est vrai que j'avais pas envie spécialement d'alourdir cette conclusion au terme d'un ouvrage. Alors peut-être que le paradoxe, c'est que sur 380 pages, bien le voyage lui-même des frères Parmentier n'en occupe que 65. Donc grande déconvenue, peut-être aussi du lecteur, au caractère déceptif de la mise en récit, eh bien c'est que finalement le voyage des frères Parmentier par lui-même. Le récit même de ce voyage, ça n'est peut-être pas le plus important, ni même le plus intéressant. C'est évidemment tout ce qu'on peut déplier, déployer autour de ce texte. Les choses, d'une certaine façon, se sont faites comme ça.
Évidemment, on voit dans votre ouvrage aussi un ensemble d'articulations avec l'ensemble de votre œuvre aussi, hein, à commencer par l'histoire à part égale, Paris en 2011, qui a fait le tour de quoi ? L'affaire Magellan, Magellan revient souvent, en 2020, et puis le livre que vous avez dirigé, L'exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes, le collectif publié en 2019, ressorti en poche dans une édition augmentée à la fin de 2023. Évidemment, il y a tout un ensemble de liens qui se tissent avec vos précédents ouvrages.
Une fois encore, on pourrait défendre ça de manière très assurée. Mais je crois que tout simplement, j'ai des marottes, ou en tout cas, il y a des choses dont j'estime que peut-être je les avais traitées un peu vite, parce qu'elles étaient simplement des arguments ou des documentations d'appoint dans un précédent récit. Le récit de l'expédition des frères Parmentier est cité, un bref extrait est cité dans l'histoire à parts égales. Bon, j'étais pas particulièrement revenu, peut-être que ça m'était resté dans un coin de la tête. Peut-être que ça m'avait frappé déjà à l'époque de voir qu'on vivait toujours quand même sur l'édition critique de 1883. Et puis, il y a des personnages qui reviennent. Alors, on est dans les mêmes années, les années 1520. C'est l'expédition des frères Parmentier. Et puis, bien sûr, c'est le choc de l'expédition Magellan. Donc, Magellan revient. Mais il y a, par exemple, déjà un personnage qui apparaît beaucoup dans la dernière partie du livre, qui m'accompagne depuis très longtemps, depuis 25 ans, depuis que j'ai commencé à m'intéresser au monde insulindien, à l'Asie du Sud-Est, qui sera très présent dans le prochain livre. C'est le Munshi Abdullah, qui est un écrivain, pas seulement un scribe-interprète, mais un véritable écrivain malais, dans la Singapour britannique, aussi peu, des années 1810-1820. Et je lui emprunte un certain nombre de considérations sur le monde malais. Eh bien, je sais déjà qu'il figurera en bonne place dans le prochain ouvrage. Donc, alors, je dirais pas que c'est complètement inconscient, que ça m'échappe complètement, mais je pense que c'est simplement l'expression de ce qui, à un moment donné, m'habite ou m'occupe quand j'écris. Donc tout ça, effectivement, se tisse ou s'entretisse de livre en livre. Après, je crois que ça renvoie au fait que bon, les historiens sont probablement de grands maniaques. Donc, en tout cas, l'histoire est une manière intelligente de sublimer un trouble obsessionnel. Et on y revient toujours, les mêmes personnages, les mêmes séquences. Oui.
Ce qui fait aussi la touche peut-être plus particulière de ce livre, c'est une plongée dans des sources manuscrites, là, les archives départementales de la Seine-Maritime, par exemple. C'est tout à fait frappant dans la première, mais aussi dans la deuxième partie du livre. Plonger dans des sources assez passionnantes quand on connaît un petit peu le contexte. Il y a ce qu'on appelle la bombarderie ou la grande bombarderie de Dieppe en 1694 avec une grande perte d'archives, hein, ce qui est un petit peu dramatique pour la compréhension de la Dieppe du XVIe siècle, du début du XVIIe siècle aussi. Mais vous êtes allé à Rouen, enfin voilà, vous avez vraiment pris en main un ensemble d'archives assez considérable. C'est un gros travail archivistique aussi, votre livre.
Oui, alors les archives départementales de la Seine-Maritime, évidemment, qui sont une richesse par ailleurs prodigieuse, et les archives de Dieppe, les archives municipales de Dieppe, puisque le fonds ancien et local de la médiathèque Jean Renoir en conserve, outre le manuscrit du XVIe siècle du voyage des frères Parmentier, et bien précisément ce qui a survécu à la bombarderie, au bombardement de la quasi-totalité de la ville de Dieppe en 1694. et en particulier donc les bâtiments qui ont souffert, c'est-à-dire qui ont été réduits en cendres, hein, il y a la pensée de Jean Angot, donc la grande bâtisse majestueuse que Jean Angot avait fait bâtir le long des quais, mais il y a également les archives de l'hôtel de ville, de l'hôtel commun, les archives du greffe, du grenier à sel de Dieppe, qui est aussi une institution extrêmement importante dans l'histoire de cette ville. Donc à Dieppe, on trouve ce qui a survécu et ce qui a été sauvé, littéralement, des cendres, des débris, et inventorié par Langlois. C'est la raison pour laquelle on parle du fonds Langlois. Et je pense que c'est très important de naviguer entre les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, les archives de Rouen nous donnent l'histoire plutôt vue depuis le haut de la seigneurie, c'est-à-dire du point de vue de la comptabilité, de la trésorerie de l'archevêque de Rouen, qui possède évidemment la vicomté de Dieppe dans son temporel. Il y a quelques documents, évidemment, diepois, il y a aussi des actes de tabellionnage, mais quand même, on rentre toujours plus tôt par la porte, on pourrait dire, de l'exploitation fiscale, et c'est Dieppe vu à travers essentiellement ses comptabilités et le revenu très conséquent que la ville dégageait pour l'archevêque de Rouen. Alors que dans les documentations de Dieppe, qui sont difficiles d'accès et d'exploitation, parce qu'elles sont... Enfin, Langlois a fait ce qu'il a pu, mais il a dû reconstituer comme il le pouvait, non pas même des séries chronologiques, mais ne serait-ce que des amas, des agrégats thématiques. Eh bien là, on est beaucoup plus au proche de la pratique elle-même. Bon, il y a toutes les pièces liées à l'histoire des franchises et privilèges de la ville, les originaux, mais il y a également toutes les pièces liées à ce que l'on peut comprendre de la vie sociale de la ville à l'époque, et notamment toutes les pièces liées aux questions foncières, donc fiefs, prises à rente, etc., qui nous permettent de beaucoup mieux situer les grandes familles de notables de cette ville dans leur environnement urbain à l'époque. Donc Rouen est extrêmement importante, elle a toujours fait d'ailleurs de l'ombre à Dieppe, mais ce qui subsiste de la grande bombarderie à Dieppe même est aussi extrêmement important. Et c'est vraiment dans l'aller-retour entre ces deux styles presque de sources que certaines choses commencent à se dessiner de manière un peu plus précise. Voilà. Mais vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, sont des sources d'exploitation extrêmement difficiles, y compris les sources de Dieppe. Bon, les registres de la vicomté, c'est à la fois magnifique. Voilà, ce sont des petits volumes chronologiques, toujours les mêmes, évidemment le même rubriquage. Mais en même temps, certaines années sont de lecture extrêmement difficiles et on part longtemps à la chasse pour souvent ne ramener pas grand-chose. Mais quand on ramène quelque chose, c'est toujours extrêmement parlant.
Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Romain Bertrand, directeur de recherche aux séries Sciences Po, auteur aux éditions du Seuil d'un livre intitulé « Les grandes déconvenues, la Renaissance, Sumatra, les frères Parmentier ». Premier mot de l'introduction au discours de la navigation de Jean et Raoul Parmentier de Dieppe, texte publié par Charles Schaeffer en 1883 à Paris chez Ernest Leroux. Jean Parmentier, né à Dieppe, fut l'un des hommes les plus distingués de cette pléiade de navigateurs et de poètes qui brilla en Normandie d'un si vif éclat pendant la première moitié du XVIe siècle. Il était plus connu jusqu'à ses dernières années par ses travaux littéraires et ses compositions poétiques que par les voyages lointains qu'il entreprit pour le compte du célèbre armateur Jean Angot. Alors, dans la deuxième partie de notre émission, on peut revenir sur quelques points saillants de votre livre. Et je signale pour nos auditeurs, et on vous en remercie, qu'il y a un superbe index qui permet aussi de se repérer dans l'ouvrage. Alors, dans votre première partie, vous revenez sur le contexte normand, la Normandie de la reprise démographique et économique qui se prépare à partir de 1475 et au tournant des 15e et 16e siècles, à bas bruit, dites-vous, page 41. Et puis, évidemment, on retrouve Dieppe, la ville, ses activités. On aperçoit aussi les activités économiques de Dieppe dans la deuxième partie de l'ouvrage. Le monde, c'est le monde de la pêche. Le hareng, dites-vous, qui imprègne littéralement toute la ville.
Oui, c'est important d'installer les choses et bon, de repartir du récit de la grande catastrophe normande, de ce qui est un véritable effondrement démographique dans la première moitié du XVe siècle, pour resserrer la focale et aller de plus en plus vers Dieppe. C'est important de revenir là-dessus, d'abord parce que c'est une manière de rendre hommage à l'immense travail accompli par tout un ensemble de grands archivistes historiens de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. J'ai essayé presque dans le style, par certains moments, de rendre hommage à cette formidable accumulation, transcription de documents accomplis par Delisle, par Robillard de Beaurepaire, alors qui, de manière paradoxale, ont à la fois accumulé énormément de documentation, mais en ont dégagé très peu de lignes de compréhension. Mais il fallait repartir de ça, en tout cas il fallait faire fond, sens propre là-dessus. Et c'est important aussi parce que l'histoire maritime et l'histoire politique des grandes découvertes a en fait souvent un peu trop découpé à l'avance son objet. Donc c'est vraiment une histoire qui commence avec le départ des bateaux et qui s'arrête quand les bateaux reviennent. Et d'une certaine manière, tout ce qui est lié à l'économie des grandes découvertes, eh bien, est mis sur le compte de la volonté visionnaire de tel ou tel entrepreneur local ou sur le compte de la volonté de tel ou tel puissant. Mais d'une certaine façon, dans cette histoire-là, l'argent est déjà là. Et la question qu'on peut se poser, mais c'est d'où vient l'argent? C'est-à-dire d'où vient le surplus de capital qui autorise à armer des expéditions, donc avec des nefs d'un tonnage conséquent, avec des équipages qui se comptent donc par centaines de marins embarqués. Donc d'où vient tout cela? Eh bien dans le cas de Dieppe, la question en fait trouve assez rapidement sa réponse. Cet argent vient de la pêche au hareng. La pêche au hareng représente de 60 à 90% des revenus tirés par l'archevêque de Rouen de l'exploitation de sa vicomté de Dieppe. Donc le hareng imprègne la ville au sens où il est la matière première par excellence du développement économique de Dieppe, et qu'on ne peut comprendre les expéditions vers les lointains qu'à condition de comprendre en fait l'origine du capital qui les rend possible. Et je signale simplement pour finir qu'il imprègne la ville parce qu'on a des témoignages aussi, notamment d'une ambassade tchèque. L'ambassade tchèque qui séjourne à Dieppe et qui dit que enfin l'odeur est insupportable dans les rues. C'est une ville qui est tout entière dédiée à la transformation du hareng. Il y a des roussables, qui sont des souriceries, installées un peu partout. Et puis, il y a, nous dit cet écuyer tchèque, des piles de hareng, de déchets de hareng qui pourrissent au coin des rues.
Vous citez toujours des textes. Il y a beaucoup de citations dans votre livre. Et on a une qui nous a frappé. C'est un extrait de La vie de Sainte Hareng, poème comique imprimé à la fin du XVe siècle. La citation se trouve à la page 143-144 de votre livre. Je propose d'en donner lecture pour installer un certain climat. Sainte Hareng est moult précieux. Il fait gagner le tavernier. Sainte Hareng est moult apprisé, qui tant est renommé en France. Sainte Hareng donne pitance aux Carmes et aux Augustins. Aussi fait-il aux Jacobins. Il est connu jusqu'à Rome. Aussi est-il en Angleterre, en Flandre et en plusieurs terres, en Bourgogne et en Auvergne, en Portugal et en Espagne, et du côté des grandes montagnes, en Provence et en Lombardie, en Normandie et en Lorraine, en Berry et en Aquitaine et sur la rivière de Loire, et en plusieurs et maintes foires, par le monde se fait porter. Joli texte, mais qui nous dit voilà la puissance de toute cette économie-là, Romain Bertrand.
Oui, tout à fait. Le hareng, c'est véritablement l'or blanc des mers du Nord, de la Manche, et puis pour partie de la mer Baltique, et ce, d'ailleurs, voilà, dès les XIIIe, XIVe siècles. C'est une véritable manne. Et c'est ce qui organise aussi, à travers son exploitation, c'est-à-dire sa pêche, eh bien, toutes les hiérarchies sociales et politiques de la ville de Dieppe. C'est-à-dire que la ville de Dieppe, c'est avant tout une ville de gens de mer, voués à, pour dire, la collecte, la pêche et le conditionnement du hareng. Et c'est une ville de gens de mer, c'est-à-dire c'est une ville où les principaux notables, qui font partie des bourgeois de la ville, qui assurent les offices d'échevinage, eh bien, sont quasiment tous issus du monde de la pêche, et en particulier de cette institution particulière de l'ostage, hein, c'est-à-dire qu'ils ont été hôtes vendeurs, c'est-à-dire intermédiaires sur le marché de la fiscalité du poisson. Voilà, donc on ne trouve pas un notable à Dieppe qui n'est pas parti lié avec la pêche et qui ne soit pas d'ailleurs souvent lui-même un maître de navire.
Dieppe, disons autant des frères Parmentier, de Jean Angot, est-ce qu'on a une idée de la population à peu près?
Alors c'est compliqué, mais enfin les meilleures estimations, dont celle de Philippe Lardin, historien médiéviste spécialiste de Dieppe au XVe siècle, situe le maximum démographique de Dieppe à l'orée du XVIe siècle à 10 000 habitants. Disons entre 8 000 et 10 000, ce qui en fait une ville de bonne taille, évidemment, pour l'époque, mais ce qui en fait quand même une petite ville. Une petite ville où, par définition, par exemple, la distance, ne serait-ce que physique, entre les notables et les simples artisans ou les simples mariniers, les marins-pêcheurs, comme on dirait aujourd'hui, est finalement assez faible. C'est-à-dire que Jean Angot est un notable que la plupart de ses administrés, entre guillemets, croisent dans les rues au quotidien.
Il faut rappeler pour nos auditeurs que Rouen est la deuxième ville de France à l'époque. Hein. Derrière Paris, on l'a complètement oublié, mais c'est l'apogée de Rouen sur le plan à la fois économique, démographique. Alors évidemment, vous vous installez dans ce contexte-là, vous installez des familles, des grandes familles, notamment celle de Jean Angot. Donc Jean Angot, né en 1488, on suppose, grenetier à sel, receveur des recettes de la vicomté, mais c'est aussi un entrepreneur en piraterie, régentant une brigade de capitaines belliqueux. Dites-vous un moment, à la fois notable et brigand, mais vous nuancez ce portrait bifide, en tout cas vous articulez les deux facettes du personnage de manière beaucoup plus fine qu'on ne l'avait fait Romain Bertrand.
Oui, alors Jean Angot, 1488, date de naissance supposée, puisque ça c'est le hasard de l'archive, mais en tout cas pour ma part, c'est la première fois où je rencontrais un document qui nous permet de dater probablement la naissance d'Angot, et date de décès 1551. C'est un homme d'ailleurs qui vit assez vieux pour son temps. Jean Angot, c'est d'abord avant tout une extrêmement puissante légende locale. Donc à Dieppe et dans toute la Normandie, Jean Angot, eh bien, une fois encore grâce au XIXe siècle, s'impose comme un espèce de personnage de conte de fées. C'est un homme qui serait parti de rien, ce qui n'est pas vrai, qui aurait invité le roi à sa table et aurait entretenu la cour à ses frais, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et c'est un homme qui aurait presque à lui seul eh bien, relancé la politique d'expansion maritime du royaume de France à une époque où les souverains s'en désintéressaient. Et il est partout, dans la toponymie de la ville, lycée, quai, il est partout dans les musées, hein, du manoir de Varangeville au musée maritime et fluvial de Rouen. Eh bien, c'est une sorte d'entrée en matière obligée pour quiconque s'intéresse à l'histoire de la Normandie au XVIe siècle. Évidemment, la légende en a fait beaucoup. Et il s'agissait déjà d'aller voir concrètement eh bien, ce que le document nous permettait de dire ou de ne pas dire concernant Angot. Enfin, il ne s'agit pas seulement d'attenter à la stature d'Angot comme individu, mais il s'agit de voir qu'Angot, finalement, c'est un notable comme les autres. C'est-à-dire que des gens Angot, il y en a d'autres. Des gens Angot, c'est-à-dire des notables, des bourgeois qui vivent d'une part d'une activité économique et fiscale, de perception, hein, de droit pour le compte de l'archevêque, et d'autre part, eh bien, des métiers de la mer, hein, de la haranguaison, du roulage, c'est-à-dire du commerce de cabotage et de la course, c'est-à-dire de la saisie de navires présumés ennemis, eh bien, il y en a beaucoup à l'époque, hein, en Bretagne et en Normandie. Il y en a un pas très loin, qui est un comparse d'écumerie de Jean Angot, qui s'appelle Michel Ferré. En fait, lorsqu'on regarde, eh bien, on nous explique que Jean Angot, voilà, c'est un homme puissant qui s'est fait bâtir une grande maison, richement décorée, qu'il a appelée « La Pensée sur les quais de Dieppe ». Eh bien, Michel Ferré fait la même chose au Havre. Il a une grande maison, richement décorée, sur les quais du Havre, qu'il a contribué d'ailleurs à bâtir lui-même, qui s'appelle la Salamandre. Donc en fait, l'idée aussi de restituer de manière plus dense, on pourrait dire, le contexte social et politique de l'époque, eh bien, c'était pour montrer que ce qu'il y a de plus intéressant chez Jean Angot, ça n'est pas son absolue singularité, mais c'est au contraire le caractère relativement banal à l'époque, eh bien, d'un certain nombre de ses activités. Jean Angot n'est pas, loin s'en faut, le seul homme à l'époque à vivre d'une part voilà, du commerce maritime et de l'autre de la guerre de course.
C'est ça, vous le rappelez, finalement la pêche, la piraterie, le négoce se font avec les mêmes hommes. Ça c'est important parce que nos auditeurs sont peut-être pas familiers avec ces réalités-là.
Il y aura une espèce de spécialisation dans l'activité corsaire, mais beaucoup plus tardivement, au XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Il y aura une spécialisation dans l'activité corsaire à partir du moment où le droit de la prise, le droit de la course, sera beaucoup plus codifié et formalisé. Au tout début du XVIe siècle, on en est encore au balbutiement de cette formalisation du droit de la prise. Les amirautés n'ont pas encore véritablement établi et étendu leur emprise sur les milieux de gens de mer de la façade atlantique. Et oui, il faut rappeler cela tout simplement, c'est que ces bateaux lancés à l'assaut de navires de nations dites ou présumées ennemies, sont les mêmes que ceux que l'on utilise pour le commerce avec l'Écosse ou l'Angleterre, ou la Flandre, sont les mêmes que ceux que l'on utilise pour la pêche hauturière, pas celle près des côtes, mais celle, par exemple, au large des côtes d'Angleterre. Et par définition, les hommes sont les mêmes, des marins expérimentés qui sont tantôt pêcheurs, tantôt officiers à bord de nefs qui convoient des biens, et tantôt, s'occupent d'abordage. C'est un même bassin d'hommes, de matériel et de ressources qui permet le commerce, la course, et d'ailleurs aussi les expéditions vers les sociétés lointaines, le Brésil, la Guinée, l'Asie.
Si on regarde l'armateur Jean Angot, on est frappé par l'ampleur, dites-vous, la fréquence de ses prises. Et vous dites à un moment qu'en 1523, il est l'auteur, celui qui est derrière l'un des plus beaux hold-up maritimes du siècle, par le capitaine qui travaille pour lui, Jean Fleury, c'est à la page 70 de votre livre.
Oui, alors Jean Fleury, c'est pareil, c'est un personnage de légende lui aussi. C'est l'un des principaux capitaines d'Angot. Il officie sous ses ordres et sur des bâtiments de course qui sont armés par Angot. Il opère en particulier donc le long de la péninsule ibérique. Ses proies de prédilection sont les bâtiments portugais de retour des Indes, c'est-à-dire de retour de l'Inde et de l'océan Indien, et puis les navires espagnols de retour des Amériques, en l'espèce donc du Mexique. On lui prête des centaines de prises. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'à l'époque, tout le monde quand même, ça donne un peu à la guerre de course, donc il n'y a pas que Jean Angot et Jean Fleury, mais comme Angot est un personnage plus saillant que les autres, les Espagnols et les Portugais ont tendance à lui imputer la totalité des dommages qui leur sont causés. Ils réclament 1 million de cruzados, ils expliquent que Angot est indirectement responsable de 300 prises de navires, etc. C'est peut-être un peu exagéré, mais quand on tient une tête de coupable, on en profite. Donc Jean Fleury, c'est cet homme qui commande une petite flottille qui mène, on pourrait dire, la vie dure, donc au bâtiment portugais et espagnol. Et en 1523, il capture une partie des nefs qui ramènent du Mexique en Espagne, c'est-à-dire qui convoient de Veracruz à Séville, San Lucar de Barrameda, l'avant-port de Séville, une partie des trésors extorqués par Hernán Cortés au dernier empereur aztèque, pour aller vite, Moctezuma, lors de la prise de Mexico-Tenochtitlan en 1521. Il s'agit plus exactement qu'une partie des trésors du quin du roi, c'est-à-dire de cet impôt que le trésor royal levait sur les butins des conquistadors, ce qui veut dire qu'il n'est pas sûr que toutes les pièces n'aient pas été déjà fondues, que l'or, l'argent n'aient pas été déjà fondues. On n'en sait rien puisque cette cargaison a disparu, puisque Jean Fleury s'en est emparé. Et c'est d'ailleurs la cause probable de sa perte, c'est-à-dire que cette prise jette Charles Quint dans une fureur, dans une colère terrible. Et à partir de là, Fleury devient effectivement, on pourrait dire, l'ennemi numéro un de la marine espagnole, des marines ibériques dans leur ensemble, et il sera capturé et exécuté, avec d'ailleurs un certain nombre de ses hommes.
Alors, c'est intéressant de voir que Jean Angot, la fin de sa vie, c'est plutôt une forme de déchéance, et il ne reste finalement que des reliquats de la vanité d'Angot, le manoir de Varangeville, vous en parliez tout à l'heure, puis la frise dite des sauvages de l'église Saint-Jacques. Voilà. Le personnage, est destiné un peu contrasté. La fin de vie, c'est plutôt le temps de la déchéance.
Il y a une part de réalité, mais comme on a beaucoup exagéré la gloire d'Angot, on a transformé en déchéance, ce qui est une fin de carrière, non pas parfaitement normale, assez répandue à l'époque. C'est-à-dire que de grands argentiers, des notables qui bénéficient de la faveur des puissants et puis qui perdent ces faveurs et qui s'en trouvent donc congédiés, le XVIe siècle en est rempli. Il y a un autre exemple célèbre, Semblancé, ces gens-là sont de grands capitalistes et qui, ont les faveurs d'un souverain tant qu'ils contribuent évidemment à alimenter ses finances, mais peuvent tout aussi bien la perdre lorsque, pour une raison ou une autre, politique, religieuse aussi par la suite, ils se trouvent en conflit avec la volonté royale. Donc Angot, une fois encore, ne fait pas finalement tellement exception. C'est un puissant notable de province. Il bénéficie de faveurs du roi, de l'amirauté, Il bénéficie d'une forme de protection de la sœur du roi, Marguerite de Navarre, mais comme beaucoup d'autres. Et comme beaucoup d'autres, eh bien, à un moment, il n'en bénéficie plus. Et alors, ce que, justement, les gens qui transforment la vie d'Ango en fable appellent sa déchéance après avoir appelé le reste de sa vie, eh bien, son ascension, c'est une fin de carrière assez triste, mais assez classique. C'est-à-dire que le notable qui perd ses appuis, eh bien, se trouve à la merci de tous ses concurrents et de tous ses ennemis. Plus la fortune d'Ango s'appetisse, eh bien, plus la meute de ses créanciers augmente. Parce qu'évidemment, lorsqu'on voit d'ailleurs que quelqu'un qui vous doit de l'argent en a de moins en moins, on se précipite pour lui demander ce qu'il vous doit et on accélère son infortune au sens propre du terme.
Évidemment, votre livre, et singulièrement la deuxième partie, revient sur la figure de Jean Parmentier et sa famille. Jean Parmentier, c'est un congénère d'Ango, hein, il est né en 1494. Alors la question de son éducation en matière maritime est assez passionnante aussi. Et évidemment, là aussi, on a beaucoup glosé jusqu'à construire des hypothèses un petit peu fantaisistes, qui disent aussi beaucoup, évidemment, du regard historiographique. Évidemment, la question de son maître supposé, Pierre Desselier, prêtre d'Arc, auteur de plusieurs mappes-mondes illustrés, supposé fondateur d'une école d'hydrographie ou d'une école de cartographie diepoise, est crucial. Et vous dites là, de manière très forte, je trouve assez passionnante, le terme d'école ne convient pas, vous dites, c'est le cheval de Troie de la téléologie. C'est à la page 161 de votre livre. Et c'est en fait plutôt une construction du 19e siècle pour répliquer aux érudits portugais qui rappellent toujours le caractère pionnier de leur pays en cette matière, Romain Bertrand.
Alors, construction du 19e et surtout du début du 20e siècle, puisqu'en fait, cette idée, non seulement d'une école de cartographie diepoise, mais même d'une école de sciences nautiques publiques installée à Dieppe, dont Pierre Desselier aurait été le patron, hein, enfin en tout cas le recteur, on la doit aux années 1920 et en particulier à un formidable par ailleurs historien des pratiques maritimes qui s'appelle Albert Antium, qui était l'aumônier du lycée du Havre, qui a consacré de nombreux travaux à la cartographie diepoise et qui a tendance à rapatrier sur le début du XVIe siècle eh bien une réalité qui est beaucoup plus tardive. Parce qu'en fait, ça n'est pas avant les années 1660 qu'on installe véritablement un hydrographe, voilà, salarié par la couronne à demeure à Dieppe. Bon, au début du XVIe siècle, les choses sont un peu plus vagues. Il y a d'ailleurs des incohérences dans le fait de faire de Pierre Desselier à la fois l'auteur de cartes très tardives dans le XVIe siècle et puis celui qui aurait initié au tout début du XVIe siècle, Jean Parmentier, à la science nautique. Alors évidemment, je ne nie pas les apports cartographiques diepois du XVIe siècle, les cartes de Jean Rotz, celles, vous les avez mentionnées, les mappes-mondes de Desselier, mais l'idée de réunir tout cela en une espèce d'école, c'est-à-dire de volonté organisée de produire un savoir cumulatif, eh bien ça va probablement un tout petit peu trop loin. Et surtout, ça pose une vraie question, c'est dans quelle mesure considérons-nous qu'il est nécessaire que des professionnels de la mer, des capitaines expérimentés, comme l'était indubitablement Jean Parmentier, dans quelle mesure considérons-nous comme nécessaire qu'ils aient appris leur métier de quelqu'un qui n'en était pas ? Fallait-il vraiment que Jean Parmentier suive les cours de Pierre Desselier, un prêtre, donc cartographe, eh bien pour apprendre les règles et l'art de la navigation hauturière ? Et si on regarde bien, ou en tout cas si on muse un peu dans les archives et les textes de l'époque, on se rend compte que ça ne fonctionnait pas du tout comme ça dans le milieu maritime, et qu'en fait, la transmission de l'art des navigations lointaines, c'est-à-dire les connaissances en astronomie nautique et autres, hein, qui permettaient ces navigations vers le Brésil ou l'Asie, eh bien, étaient transmises de manière informelle, de manière non écrite, à l'oral, d'un capitaine pilote à un autre. Et alors, ça pose une vraie question derrière, c'est-à-dire que il y a une lecture très intellectualiste qui est faite de Jean Parmentier par l'historiographie du 19e et du 20e siècle, où on en fait presque une sorte d'érudit au petit pied. Ça a quelque chose, on pourrait se dire, dans un premier temps, d'assez sympathique, mais c'est-à-dire qu'il faut nécessairement arracher Jean Parmentier à son monde, à son milieu et à sa pratique pour en faire quelqu'un capable d'avoir accompli ce qu'il a accompli. Et je crois que c'est un réflexe très intellectualiste, mais qui nous éloigne de la réalité ordinaire, qui est que, eh bien, la façon de naviguer s'enseignait à bord des bateaux, et c'est dit de manière extrêmement forte dans les textes de l'époque. Il y a beaucoup de capitaines pilotes qui s'offusquent de l'idée qu'on puisse apprendre ailleurs que sur le gaillard d'arrière d'une nef, eh bien, à devenir un bon pilote. Donc la maritime étude, à l'époque, ce qu'il faut savoir pour devenir un bon capitaine pilote, eh bien, c'est quelque chose qui est interne au milieu des gens de mer. Et la codification savante de tout cela, elle est à la fois plus tardive et d'une certaine manière beaucoup plus déliée de la pratique qu'il ne faut.
Oui, alors c'est passionnant cette idée qui consiste à dire qu'il n'est pas forcément utile d'avoir en ce domaine une surinterprétation intellectualiste. En revanche, il faut prendre en considération les écrits de Parmentier, notamment ses écrits poétiques. Vous dites, avec une formule que j'aime bien, c'est à la page 178, « Imagine-t-on Cortès pousser la chansonnette ou Vasco de Gama s'adonner au sonnet ?» Ça, c'est intéressant, ce qui fait un peu la spécificité du personnage, parce que il a produit, Jean Parmentier, des écrits, c'est toute la poésie palinodique, les puits, le puits de Rouen, le puits de Dieppe, et Jean Parmentier remporte plusieurs prix à partir de 1518. Ça, c'est très intéressant, vous y accordez un certain nombre de pages dans votre livre, Romain Bertrand.
Oui, parce que Jean Parmentier est un personnage qui s'est trouvé approprié à la fois par l'histoire maritime, pour ses activités de navigation évidemment, mais aussi par l'histoire littéraire, pour son activité de poète, facteur de vers, producteur de vers, à l'occasion, vous l'avez rappelé, des puits de Dieppe et de Rouen, qui sont des concours de poésie mariale, où l'on chante littéralement, dans des formes poétiques d'ailleurs assez complexes, eh bien, telle ou telle qualité ou telle dédication de la Vierge Marie. Mais d'une certaine manière, ces deux appropriations se sont poursuivies de manière parallèle. Donc il y a un Jean Parmentier pour l'histoire littéraire et il y a un Jean Parmentier pour l'histoire maritime. Et ce qui est amusant, c'est d'abord de faire dialoguer, évidemment, ces deux histoires, de montrer que dans la pratique littéraire de Jean Parmentier, eh bien, le plus intéressant peut-être, c'est l'usage de son lexique de métier, c'est-à-dire de cet ensemble de termes, de vocables spécifiques de marin, hein, d'hommes de mer. C'est intéressant aussi pour comprendre le personnage de Jean Parmentier, capitaine de Jean Angot, d'un puissant notable à Dieppe, eh bien de voir aussi que sa poésie nous renseigne, alors de manière très allusive, eh bien sur la façon dont il est pris dans les grands débats du temps, notamment les débats religieux. Hein, on est dans une Normandie qui est balayée par les vents, les premiers vents puissants de l'évangélisme. Hein. Et donc en fait, pour arriver à une esquisse de biographie de Jean Parmentier, eh bien il faut à nouveau aller y voir de plus près, à la fois pour ce qui concerne sa pratique maritime, mais aussi pour ce qui concerne sa pratique littéraire, et éclairer d'une certaine manière l'une par l'autre.
On peut justement se plonger un peu dans ces textes, c'est la deuxième lecture qu'on peut proposer à nos auditeurs et à nos auditrices, ce chant de 1526 qui évoque finalement le futur voyage de Parmentier aux Indes orientales, chant dans lequel Parmentier prend la réforme et Luther pour cible. Il faut mettre en regard ce texte avec une illustration que vous reproduisez dans un très beau cahier iconographique central, très belle illustration extraite du manuscrit français 1537 de la Bibliothèque nationale de France. Ce sont ces chants royaux pour la conception couronnée au puits d'Ormand. On est en 1526. Voici cet extrait. Du chef de Co, provis de nation, un cosmographe, expert en la marine, entreprit la route et navigation du Kaïkou, Calicut, pour trouver l'or en mine. Il nagea tant sur les ondes salées, dedans sa nef, les voiles avalées, au gré du vent, cherchant l'île nouvelle, qu'il fut surpris d'un vil monstre rebelle, le poursuivant, qui le voulait défaire si, pour pilote, il n'eût eu en nacelle la mappe-monde aux humains salutaires. Prince, je prends la mine d'or tant belle pour paradis, cosmographe, j'appelle le genre humain, le monstre, vieux Luther, et Marie est sans tache originelle, la mappe-monde aux humains salutaires. C'est magnifique, et c'est articulé aussi aux convictions personnelles de Jean Parmentier. Vous dites, il n'est pas certain que Jean n'ait pas partagé, peut-être plus tard, certaines des critiques émises par les évangéliques à l'encontre du clergé et de son cheptel. On est dans ce paysage des années 1520, 1530, très évolutif.
Oui, et d'ailleurs à ce titre absolument passionnant. Parce qu'évidemment, tout ce que la seconde moitié du XVIe siècle et l'historiographie plus tardive va encoder comme la grande bataille, presque la bataille rangée entre eh bien, le pouvoir souverain, ou en tout cas certaines de ses fractions, et les réformés, eh bien, tout cela, évidemment, n'est pas si clair dans ces années-là. Et Jean Parmentier a souvent été présenté par l'histoire littéraire et l'histoire religieuse comme un poète finalement assez consensuel de ce point de vue. C'est-à-dire, bon, évidemment, il écrit à la gloire de la Vierge Marie, ça le situe a priori pas particulièrement du côté de ce que va devenir la réforme, et donc on le présente finalement comme engoncé dans une dévotion assez banale. En fait, c'est pas vrai du tout. D'abord parce que le type de dévotion mariale portée par les puits normands est presque une nouveauté théologique à l'époque. Enfin, l'Immaculée Conception est un dogme qui est relativement nouveau à l'époque, qui doit beaucoup à l'occupation anglaise d'ailleurs, qui ne deviendra un dogme officiel de l'Église qu'au XIXe siècle. Tout ça n'est pas si évident qu'il y paraît. Les confréries qui organisent ces puits, c'est-à-dire ces concours de poésie, ne sont pas en fait des bâtiments annexes de l'Église. Elles entretiennent des relations d'autonomie et parfois un peu conflictuelles avec l'archevêché, avec le clergé séculier. Et chez Parmentier, eh bien, on trouve aussi une critique des prêtres et même des prélats. Alors évidemment, la critique du prêtre, ça c'est le fond de commerce de la rumeur paysanne et de la poésie à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Donc le gras curé qui s'engraisse plutôt qu'il n'officie. Mais chez Parmentier, ça va un petit peu plus loin, parce qu'il y a une critique des bulles de nomination épiscopale. Il est proche aussi, par exemple, de gens comme Pierre Duval, qui vante ses qualités. Pierre Duval, c'est un poète, donc participant aussi au puits, qui lui va clairement choisir par la suite le parti protestant et devenir pasteur. Il y a quelque chose qui est moins net que ce que l'on a pu dire, à mon humble avis, dans la poésie de Jean Parmentier. Et en tout cas, elle est traversée par le trouble de l'époque, hein, vis-à-vis de ces questions-là.
Alors, on arrive tout doucement à la fin de notre émission, Romain Bertrand, mais évidemment, on peut dire un mot de votre troisième partie. Ça y est, on voit la pensée et le sacre. Mise en rade, fin mars 1529, les nefs mettent à la voile le 3 avril. C'est évidemment la quête de l'épice qui pousse ces navires à prendre le départ dans cette expédition des frères Parmentier. Vous revenez sur le voyage, les sociétés qui sont frôlées, progressivement abordées, passent par Madagascar, les Comores, les Maldives, jusqu'à Sumatra. Évidemment, c'est globalement une série d'échecs commerciaux, des nombreux morts, dont les deux chefs de l'expédition. Le retour, je crois, au début de 1530, avec une demi-tonne de poivre, quelques livres d'or et 6 Indiens trouvés à Sainte-Hélène, c'est bien maigre. Vous dites, les Diepois n'ont fait qu'entreapercevoir les abords d'un monde bien plus complexe qu'ils ne l'imaginaient, monde que vous reconstituez dans vos dernières pages. Ce qui pourrait nous servir de terrain d'étude et de conclusion, c'est un extrait que vous donnez en longueur du récit de Pierre Crignon, un dialogue presque théologique entre Jean Parmentier et un certain Molana. C'est présenté à la page 294 et que vous décryptez sur la page de droite. Les deux textes sont vraiment en regard, c'est assez passionnant. Et vous montrez tout l'écart de sens qu'il y a entre ce dialogue qui est un petit peu surréaliste, parce que voilà, les questions de Parmentier montrent qu'il ne comprend pas la réalité qu'il a sous les yeux, mais c'est assez passionnant pour introduire ce dialogue un peu manqué, je ne sais pas, Romain Bertrand.
Voilà, les Diepois arrivent Kainka le long des côtes de Sumatra, s'installent comme d'autres marchands étrangers, indiens ou chinois, pour commercer dans le sultanat de Tikou. Ils sont en ville, ils se promènent en ville et ils rencontrent donc celui qu'ils appellent Molana, qui est en fait le Maulana, c'est-à-dire le cheikh al-Islam, le chef, l'autorité religieuse suprême du sultanat. Et par l'entremise de Jean Masson, qui est un Français qui fait office de traducteur en malais, dont on comprend d'ailleurs assez vite que ses compétences sont limitées, eh bien, il rentre dans un dialogue avec ce dirigeant spirituel musulman. Et ce qui est absolument frappant, c'est que Parmentier le soumet à une litanie de questions qui sont en fait d'une banalité absolument effarante. Est-ce que vous avez entendu parler d'Ève et d'Adam, du paradis terrestre? Est-ce que vous connaissez la Vierge Marie, etc. Alors évidemment, quiconque connaît un peu le monde musulman, c'est que, évidemment, n'importe quel musulman a entendu parler de tout cela, puisque ça figure dans le Coran et dans de très nombreuses sourates. Il y a des formes de dévotion spécifiques à l'égard de Marie, hein, dans l'islam. Et Jésus, est-ce que vous connaissez Jésus ? Évidemment, Jésus est un prophète de l'islam, Nabi Issa. Et donc, c'est un moment dans lequel on a un navigateur ou un explorateur européen qui arrive tout de même empli de grandes certitudes et qui soumet donc un érudit local à une litanie de questions d'une certaine façon en essayant de le piéger et pour étayer son sentiment de supériorité. Il se trouve qu'il tombe sur un érudit, un vrai, un homme qui est un produit, un surgeon d'un monde musulman qui s'étire à travers les océans, de la Méditerranée jusqu'à la mer de Chine, et qui non seulement peut répondre assez aisément aux questions de Jean Parmentier, mais qui d'une certaine manière va lui en remontrer. Et alors là où c'est très intéressant, c'est qu'on peut prendre ce petit passage comme une scène particulièrement illustrative de ce moment où, à leur arrivée en Asie, les Européens se trouvent confrontés à des sociétés bien plus complexes que ce à quoi ils s'attendaient, des sociétés connectées de très longue date à l'océan Indien et au monde méditerranéen, indirectement, et où donc s'effondre, s'effrite et presque s'effondre, le scénario de la rencontre entre la grande dame, la Renaissance, avec sa haute culture, et puis quoi, des espèces de mondes à demi sauvages, aux trois quarts barbares, là, le scénario de la rencontre, là, est d'une certaine façon renversé. Alors, on le trouve dans ce récit-là, dans le récit de Crignon, on le trouve dans beaucoup d'autres récits de cette époque-là, et c'est extrêmement intéressant, puisque Crignon n'en fait pas mystère, d'une certaine façon. Si on a accès à ce récit, c'est parce qu'il nous le livre. Et donc, il y a dans ces récits dits de voyage de la première moitié du XVIe siècle quelque chose qui est encore beaucoup plus honnête, beaucoup moins rigidifié dans le rapport, pour aller vite, de l'Europe assez lointain. C'est-à-dire que l'aveu de ces situations-là, qui sont des situations de mise en porte-à-faux pour les Européens, sera de moins en moins la règle à partir du XVIIe siècle. Il y a une grande opération, on pourrait dire, de blanchiment des récits de voyage qui va s'opérer à compter du XVIIe siècle. Mais là, dans ces récits de premier contact, on voit comme ça surgir des scènes qui nous rappellent qu'on ne peut plus exactement tout de même aujourd'hui raconter l'histoire de la même façon, qu'il faut et qu'on peut s'intéresser à Sumatra et au monde de l'océan Indien d'une manière beaucoup plus sérieuse et complexe qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Et effectivement, Sumatra, c'est un monde redoutablement complexe et formidablement passionnant que l'archéologie, l'étude des littératures malaises nous donne aujourd'hui les moyens tout de même de rendre un peu plus présent que à travers les notations un peu impressionnistes évidemment des Européens à l'époque.
Une dernière question un petit peu classique dans nos chemins, donc ce livre est publié, mais projetons-nous un petit peu, quels sont vos chemins d'historien pour les semaines, les mois, les années à venir ?
Alors je vais me remettre en fait à une enquête que j'ai commencée il y a 6-7 ans et qui a été interrompue pendant plus de 2 ans par la pandémie, l'impossibilité d'aller à la fois en Asie et tout simplement à Londres. Parce que c'est là que sont les sources. C'est une histoire qui se passera à Bornéo. C'est encore une histoire de rencontre, largement manquée, mais cette fois entre un petit officier de district, d'une compagnie à charte britannique, et des mondes qui ressemblent un peu d'ailleurs à ces mondes de la côte ouest de Sumatra, des mondes locaux, de nomades de la jungle, de seigneurs de guerre, pour aller vite, philippins sur les côtes. Voilà, à travers un document qui est en fait le DIER, le journal que tenait cet officier. On est dans les années 1870. C'est une source que j'avais croisée il y a une quinzaine d'années, et puis je me suis rendu compte que la totalité de ce DIER n'avait pas été éditée. Je repars en Asie, à Singapour et à Bornéo, pour compléter la documentation. Donc là, le chemin est d'une certaine façon un petit peu tracé, mais parce que l'enquête avait été malheureusement interrompue. Et c'est d'ailleurs parce que cette enquête sur Bornéo avait été interrompue que peut-être j'ai mis le nez un peu plus que ce que je ne devais dans les archives à Rouen et à Dieppe.
C'est notre chance. Merci beaucoup, l'histoire continue, Romain Bertrand.
Merci à vous.
Et c'est ainsi que se termine le 183e numéro de nos chemins d'histoire, le 24e de la 5e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Romain Bertrand, directeur de recherche au Série Sciences Po, auteur aux éditions du Seuil d'un livre passionnant, vous l'aurez compris, un ouvrage intitulé « Les grandes déconvenues, la Renaissance, Sumatra, les frères Parmentier ». Toutes nos émissions sont disponibles sur les plateformes de podcast et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.